J'aimerais regarder un verset de la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ce matin, je regarderai en détail, rendez grâce en toutes choses, la gratitude envers Dieu. Mais juste avant, il y a les deux versets, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Savez-vous comment on appelle ces deux commandements? On les appelle les commandements impossibles. Parce que soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Priez sans cesse. On se dit, c'est impossible. Pourtant, c'est écrit. Dieu le dit. C'est que d'une façon ou d'une autre, ça doit être possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps se faire des bons, toute la journée. Je suis joyeux, je suis joyeux. On ne doit pas non plus être à genoux, au pied de son lit, toute la journée, 24 heures sur 24. Mais il y a une façon de pratiquer ces versets, de ne pas laisser la joie être volée et d'être toujours dans la joie du salut. Hein, nous sommes sauvés. Peu importe ce qu'on nous prend, peu importe ce qui nous manque, nous sommes sauvés si nous avons cru en Jésus-Christ. Et ça, personne ne pourra nous le prendre. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Et le fait d'avoir Dieu dans sa vie, d'avoir le Saint-Esprit, ça, c'est cette joie permanente qui est toujours là. Même quand on a des soucis, des inquiétudes, des angoisses, la joie du salut est toujours là. Et puis, prier sans cesse, c'est pareil. On doit toujours avoir une attitude de prière. Chaque fois qu'on a un pépin ou une difficulté, Seigneur, on s'adresse au Seigneur. On doit toujours parler avec lui et compter sur lui. Et c'est comme ça qu'on peut prier sans cesse. Mais j'aimerais regarder particulièrement, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut être reconnaissant comme ça? Alors, on a tendance à dire, c'est bien d'être reconnaissant, de remercier Dieu, mais moi, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, alors il ne faut pas trop compter sur moi. Ceux qui remercient Dieu, c'est ceux pour qui tout va bien. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, non. Vous remarquerez, par exemple, que ce sont les plus pauvres qui sont les plus reconnaissants. Et ce sont les plus riches qui sont les plus blasés, les plus ingrats. Je pense toujours à ça quand j'ai des amis américains qui visitent Paris. Moi, je vis à Paris depuis ma plus tendre enfance. Pour moi, la Tour Eiffel, par exemple, c'est un poteau qui est là. Bon, voilà. J'exagère un peu, mais je la vois depuis tout le temps. Chaque fois que je la vois, je ne m'extasie pas en disant « Ah, oh, qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Tandis que les touristes, eux, ils trouvent ça phénoménal et puis ils regardent partout les immeubles. « Oh, mais regarde, mais ça doit avoir tant de siècles !» Et puis nous, on passe devant et puis on ne fait plus attention. Et dans la vie chrétienne, on peut être blasé aussi. Et plus on est riche matériellement, plus on a tendance à être blasé, à être ingrat même. Quand un pauvre qui n'a pas de quoi vivre suffisamment, on lui donne ou il trouve un morceau de pain sec, il va être reconnaissant, il va dire « Ah, au moins j'aurai quelque chose à grignoter aujourd'hui ». Tandis qu'un riche qui ne sait plus quoi faire de sa nourriture, ben, il ne va pas remercier Dieu, il va dire « Oh là là, je vais grossir encore, qu'est-ce que je vais faire ? Comment maigrir ? Comment faire un régime ?» Et il faut vraiment, en tant que chrétien, relativiser tout cela et être reconnaissant à Dieu. La richesse, et nous sommes riches en France, hein. On n'est pas les plus riches du monde, mais nous sommes assez riches matériellement, nous avons un certain confort, une protection sociale, et ça doit pas nous rendre durs et ingrats. Au contraire, on doit être particulièrement reconnaissant. Remercier Dieu pour la liberté de conscience et de culte que nous avons. Remercier Dieu pour justement la protection sociale que nous avons. Remercier Dieu chaque fois qu'une bénédiction nous est donnée, chaque fois qu'on prend la nourriture ou l'eau, d'avoir l'eau potable qui sort du robinet, par exemple. Mais il y a énormément de pays, il y a des millions de gens, c'est même impensable d'avoir de l'eau potable dans un robinet, c'est pas possible, non, il faut que je la purifie, il faut que j'aille l'acheter. Nous, on ouvre le robinet, on a cette eau qu'on peut boire. Loué soit Dieu pour ce confort extraordinaire qui nous est donné, qui se paye bien sûr, hein, mais nous voulons remercier le Seigneur. Merci, c'est le signe d'un vrai croyant. Dans l'Épître aux Romains, Paul parle de ceux qui cachent la vérité, qui ne veulent pas voir la vérité qu'il y a un Dieu créateur. Et il dit, ils ne lui ont pas rendu grâce. Hein, Romains 1, 21. C'est-à-dire, les incrédules, ils ne rendent pas grâce à Dieu. Je suis frappé, je partageais ça avec des personnes, lorsque en France, il arrive une catastrophe et que les gens échappent à la mort, par exemple une inondation, un incendie, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh ben, on a eu chaud, hein ? Oh, dis donc, c'était juste, hein ? Vous allez dans d'autres pays, la plupart des autres pays, je ne dis pas tous, mais la plupart, c'est nous remercions Dieu hein, d'avoir échappé à la mort. Il nous a gardés. Pourquoi en France on est comme ça ? Hein, bon, il y a toute une histoire, une tradition, une culture. Mais nous devons, en tant que chrétiens français ou habitants en France, donner l'exemple. Remercier Dieu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours parler de Dieu, par exemple, au travail. On ne peut pas évangéliser tous ses collègues ou son patron. On risque de s'attirer des ennuis, mais on peut remercier Dieu au travail, devant les collègues. Ah, oh, merci Seigneur pour. Et même s'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est bizarre ou je ne sais pas, peu importe, ils vont voir que nous avons un cœur reconnaissant. Ici, dans 1 Thessaloniciens, il dit rendez à Dieu grâce, rendez grâce, où il y a dans d'autres passages des actions de grâce. Vous avez peut-être déjà vu ça dans la Bible Second, hein, rendre des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est justement reconnaître la grâce de Dieu. Et merci, le mot merci en français, ça vient du latin mercem. Mercem, ça veut dire une grâce, une faveur. Donc, dire merci, c'est rendre grâce, littéralement, hein, puisque c'est dire grâce. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce à moi ? C'est grâce à Dieu. Et donc, dire merci, c'est rendre grâce à Dieu. C'est reconnaître que ça vient de la grâce de Dieu. Et c'est le début hein, de la foi, de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Une phrase qui résume un peu tout ça, « L'incrédule se congratule, le croyant est reconnaissant. Hein, » ça rime un petit peu. Mais l'incrédule se congratule lui-même, il se remercie lui-même. Oh, « J'ai travaillé dur, hein. Regarde !» Voilà, j'ai bien mérité, hein. Et c'est ce que Jésus hein, résume dans cette parabole de ce fermier qui a amassé hein, tout un trésor de foin, des tonnes et des tonnes. Il est heureux, il dit « Maintenant, j'ai même plus besoin de travailler. J'ai tout ça pour des années, je vais pouvoir le vendre. Et mon âme, réjouis-toi, hein, fais ce qui te plaît. » Et puis Dieu, la nuit même, lui dit « Ton âme te sera redemandée cette nuit. Tout ce que tu as amassé, ce sera pour qui ?» Et quand on est loin de Dieu, on ne réalise pas que la vie même est une grâce de Dieu. Et quand on est croyant, on peut remercier Dieu pour tout ce qui nous est donné. Et même si notre vie n'est pas facile, même si on est handicapé, même si on a des problèmes de toutes sortes, on peut remercier le Seigneur. Alors, la gratitude procure de nombreux bienfaits pour le croyant. C'est une grâce vraiment, d'ailleurs. Et c'est une sorte de vertu. Ce n'est pas dans le fruit de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais la gratitude, ça entoure tout. Ça doit être tout le temps présent dans notre vie. Pourquoi c'est si important de remercier Dieu, de rendre grâce ? D'abord, ça recentre notre attention. Quand on est dans la vie quotidienne bien agitée, surtout si on est dans la région parisienne, hein, on a 50 000 trucs en même temps sur le feu, on court d'un truc à l'autre. Et de rendre grâce, ça nous oblige à nous arrêter et de dire merci Seigneur pour cette chose-là. Et d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, les semaines sont si chargées que j'oublie ce que j'ai fait. C'est-à-dire, si on me disait qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Oh, je ne sais pas. Tu as prêché sur quoi la semaine dernière ? Vous vous rendez compte, si le prédicateur a oublié son message, imaginez les chrétiens qui l'écoutent. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire « Seigneur, je te remercie pour ce qui s'est passé aujourd'hui, pour cette chose-là. » C'est bien de le faire le soir d'ailleurs. Et Seigneur, merci de ta réponse à la prière aussi quand on prie. Des fois, on prie, on demande, on demande, on demande, et on oublie de s'arrêter pour dire merci pour ta réponse. Ça recentre notre attention. On oublie parfois que Dieu est là dans notre vie. On oublie ce qu'il a fait dans le passé, on oublie ce qu'il peut faire. Et on compte sur soi, on est sur nos propres forces, notre propre justice, et puis notre propre, souvent, énervement, agressivité. Et on finit par ressembler aux incrédules. On devient pareil. Le chrétien se différencie par sa gratitude. Alors ça peut être pris pour de la naïveté, pour être un peu rêveur ou je ne sais pas quoi. Peu importe comment c'est interprété par les autres, ce n'est pas grave. Nous, on sait qu'on remercie Dieu. On remercie les autres pour ce qui nous est donné. Quand vous priez dans un restaurant, vous dites « Merci Seigneur pour la nourriture et l'eau que tu nous donnes », peut-être que vos voisins vont vous regarder un peu « C'est une secte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent la nourriture ?» Non. Mais ils peuvent apprendre qu'on doit remercier Dieu pour ces choses. C'est une bénédiction de pouvoir manger dans un restaurant. Elle recentre notre attention, mais en plus, elle retire notre anxiété. L'anxiété, c'est l'ennemi de la gratitude. Quand vous êtes angoissé, vous ne remerciez personne ni rien. Quand on est angoissé, on est là, on rumine. On tourne, on retourne. Et pourquoi et comment? Et puis il y a l'amertume, et puis il y a l'angoisse, il y a la peur. Tout ça vient dans notre âme et c'est un combat dans la pensée. Et la gratitude, elle vous fait sortir, jaillir de tout ça. Vous sortez de l'eau d'un seul coup en disant « Merci Seigneur ». Quand vous lisez les psaumes, peut-être vous remarquerez ces psaumes où David dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Plusieurs fois, il dit ça. David était quelqu'un d'assez mélancolique, je pense. Et en plus, il avait énormément de problèmes. D'abord, des problèmes qu'il avait causés lui-même, mais aussi, il avait des problèmes que ses fils lui causaient. Des révoltes, il avait des traîtres. Quand on est roi, on a toujours un traître ou deux qui traînent. Et vous êtes tout le temps dans cette angoisse, dire qui va me tuer dans ma chambre la nuit prochaine, qu'est-ce qui va se passer, le royaume a des problèmes, il faut que j'aide, il faut que je prenne des décisions très importantes. Tout ça, c'est pesant. Et David, des fois, son âme était abattue, il n'en pouvait plus d'avoir tant d'ennemis, d'avoir tant de problèmes, d'avoir toutes ces choses à gérer. Mais à chaque fois dans le psaume, il dit « Mais je me réjouirai dans le Seigneur. Mon âme espère en l'Éternel. » Il sortait de la mare de ses angoisses en louant Dieu, en remerciant Dieu. Combien nous devrions prendre exemple sur David pour ces choses-là? Elle retire notre anxiété. L'anxiété médite les mauvaises choses, les problèmes. Mon père, Dieu et son âme, avait tendance toujours à dire « au pire ». Il commençait ses phrases en disant « au pire ». Donc, vous voyez le genre de personne, c'est-à-dire un pessimiste absolu. Au pire. Bon. Et on a tendance aussi à se dire « mais voilà, il y a des gens optimistes et il y a des gens pessimistes ». C'est une question de caractère. C'est vrai que ça peut devenir un caractère, mais ça peut être changé, le caractère. Ça peut être changé par la foi. Quelqu'un de pessimiste peut devenir optimiste, mais pas optimiste béat, mais optimiste de la foi. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, avec toi, rien n'est une impasse, rien n'est impossible. Seigneur, je compte sur toi. Je crois en l'avenir. Tu as des projets de paix pour moi, pour ma famille, pour ma vie. La gratitude recentre notre attention. La gratitude retire notre anxiété. La gratitude rafraîchit nos relations avec les autres. Parce que la plupart du temps, nous sommes avec les autres. Et comment se passent nos relations avec les autres? Dans le couple, au travail, avec les enfants, avec les parents. Comment ça se passe? Pas toujours très bien. Quand on développe par la foi cette attitude de gratitude, de remercier non seulement Dieu, mais les autres, ça change les relations, ça les rafraîchit. Je dis toujours aux futurs couples qui vont se marier, n'oubliez jamais, jusqu'à la fin de vos jours, de remercier votre conjoint quand il vous passe le sel ou le poivre, de toujours dire merci. Parce qu'avec les mois et les années, passe-moi le sel, tiens. super comme ambiance à la maison. Est-ce que tu pourrais me passer le sel, s'il te plaît? Tiens, merci. Rien que ça, ça vous change la journée. Hein? Ça rafraîchit les relations. Au travail, tout le monde est en train de se plaindre. Oui, mais regarde, mais comment mais, hein? Et le chrétien, ah, je remercie Dieu d'abord. Et puis, merci de m'avoir fait ce travail. Merci, merci chef. Merci chef, ça c'est des mots difficiles à prononcer. Hein? Voilà, tout de suite, c'est le faillot. Mais vous savez, par exemple, j'ai été au garage quelquefois ces temps-ci. Les garagistes ne sont pas toujours faciles. Hein. Ils ont beaucoup de soucis, ils ont 50 voitures en même temps à gérer. Et quand vous venez, vous avez intérêt à savoir ce que le problème. Sinon, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Mais si vous dites simplement merci à votre garagiste, avec gentillesse, vous allez voir qu'il va changer d'attitude envers vous. S'il est de mauvaise humeur ou s'il... Il est difficile, ça va changer. Il va être touché que vous le remerciez. Parce que je pense que personne ne le remercie jamais, le pauvre homme. Hein. Il est là avec ses voitures, il s'échine dans les moteurs et dans l'huile. Mais de quelqu'un dans la journée lui dise « Merci pour votre travail, j'apprécie beaucoup. » La prochaine fois, il va faire un très bon travail. Peut-être pas cette fois-là, mais la prochaine fois. Ça, c'est le témoignage chrétien. Ça rafraîchit nos relations. Un remerciement, ça vaut tous les dopages. Des fois, on prend du dopant, on prend des vitamines parce qu'on est un peu fatigué. Eh bien, un remerciement, ça rafraîchit. Une parole, c'est les proverbes, hein, douce, rafraîchit. Et c'est vrai qu'une parole aimable, une parole de remerciement, ça fait du bien à l'âme. Je pense à tous les frères et sœurs qui travaillent dans l'Église, qui agissent, qui font des choses à droite, à gauche dans l'Église. On n'est pas tout le temps en train de vous remercier, mais j'aimerais profiter justement pour vous remercier. Chacun qui a une part dans l'Église, qu'elle soit visible ou non, que le Seigneur vous bénisse. La gratitude recentre notre attention. Elle retire notre anxiété, elle rafraîchit nos relations, elle renforce notre foi. Plus on remercie Dieu, et plus on voit que Dieu est vivant. Parce qu'en comptant les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique, on voit, mais Dieu agit. Quand on ne remercie plus, ben on ne voit plus rien. On ne remarque rien, tout est indu. Et alors, quand on n'a pas tout ce qu'on veut, on se plaint. On dit, mais pourquoi Dieu? Mais comment? J'avais prié, et comment? Et ceci, et pourquoi? Alors que le chrétien qui remercie le Seigneur, il va commencer à compter les bienfaits, et dire, mais Seigneur, regarde, c'est vrai, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, des difficultés, là, 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 et là, mais... Combien de bienfaits m'as-tu donné? Et le premier des bienfaits, on va en parler, étant le salut de mon âme, le salut éternel. Ça renforce la foi parce qu'on voit que Dieu peut faire encore d'autres choses dans l'avenir. On regarde derrière, Seigneur, tu m'as tellement bien gardé et je sais que tu vas le faire encore pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, la gratitude rayonne auprès des incroyants. J'en ai déjà touché un petit mot. Notre société encourage l'ingratitude, hein? L'égocentrisme, l'individualisme, moi. Donc je me remercie, moi. À la rigueur, je veux bien qu'on me remercie, mais pour le reste, je me plains. Et ça, c'est aussi, il y a une culture française du gémissement, de la plainte, de la critique. C'est communicatif, je ne sais pas si vous remarquez. Mais si vous arrivez de bonne humeur et que vous êtes entouré de grincheux, vous finissez par être grincheux. Pareil dans le couple. Il y en a un qui est content aujourd'hui, puis l'autre est grincheux. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? 90%, c'est le grincheux qui gagne. C'est triste comme ça, hein? Mais le Seigneur veut que la gratitude triomphe. Qu'on remercie le Seigneur. Et que notre joie soit communicative, que notre gratitude soit communicative, qu'on sorte de l'ordinaire par notre reconnaissance et notre joie. Tout le monde se plaint, oui, je ne suis pas assez payé, mais regardez le gouvernement ci, le gouvernement ça, la police, le machin. Eh bien, le chrétien, il peut dire très bien tout ça. Moi, je veux remercier pour ce qu'on a en France. Je veux remercier d'avoir des autorités qui veillent sur nous, quand même. D'avoir un gouvernement stable, vous allez dans certains pays, il n'y a pas de gouvernement stable, c'est l'anarchie. Vous allez en Libye, par exemple, vous allez dans certains pays d'Afrique, c'est la dictature. Vous allez en Syrie, c'est le chaos. On peut remercier Dieu d'être en France, de pouvoir voter déjà. Et puis, surtout, bien sûr, nous devons remercier le Seigneur pour son salut. C'est ce qu'on veut faire avec la Sainte Cène. Dans les religions humaines inventées par les hommes, on s'approche de Dieu avec des efforts. On fait des sacrifices, on essaye de plaire au Dieu. Et finalement, quand on a l'impression d'être béni ou accepté, ben, finalement, on est méritant. On dit, ben oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Voilà, j'ai fait des pèlerinages, j'ai fait des prières, j'ai fait ça, ça et ça. Donc j'espère que Dieu maintenant va m'accepter. Ça, c'est les religions humaines. C'est basé sur le mérite. La religion biblique et la foi chrétienne est basée sur la grâce et pas sur le mérite. C'est Dieu qui me gracie. Et je remercie Dieu parce que sans lui, je serais perdu. Sans lui, je ne pourrais même pas m'approcher, même pas prier. Mes prières seraient automatiquement rejetées. Comme on rejette un appel hein, d'un numéro ou d'un spam. Mais Dieu accueille, écoute, pardonne. Simplement par grâce, pas parce qu'on le mérite. Combien de personnes dans la Bible ne méritaient pas du tout la grâce de Dieu? Tout ce qu'ils méritaient, c'est d'être condamnés. Et Dieu les a sauvés parce qu'un jour, ils se sont repentis. Et nous, c'est pareil. Ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance, oui, de reconnaître notre faillite, nos fautes, notre culpabilité envers Dieu, nos offenses envers Dieu. Ça, c'est important de le faire. Mais ensuite, on vient au Seigneur avec tout ça en disant, regarde Seigneur, mes mains sont sales, mon cœur est sale, mes pensées sont sales. J'ai accumulé des péchés, des fautes, des offenses. Je suis coupable. Mais Seigneur, dans ta grâce, veuille me pardonner, me purifier à cause de Jésus-Christ. Parce qu'on a vu au début, hein, rendez grâce au Père en Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on est gracié. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a payé notre dette. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est grâce au Seigneur Jésus qu'on peut être sauvé. S'il n'était pas venu mourir pour nous et ressusciter, il n'y aurait aucun moyen de salut. On pourrait aller vers Dieu en disant « Je te demande pardon !» Mais Dieu, dans sa justice, serait obligé de nous condamner. Même si on pleurait, même si on gémissait pendant toute une vie, Dieu ne pourrait pas nous pardonner. Pourquoi ? Parce que pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il soit payé. Quand vous devez une dette, on en a parlé beaucoup avec la Grèce, hein, il faut que quelqu'un paye quelque part. Par exemple, si on dit à la Grèce, voilà, vous n'avez plus de dette, on efface votre ardoise. Pour les Grecs, c'est gratuit, c'est merveilleux. Mais derrière, qui est-ce qui paye ? Hein, on a dit que les Français devaient chacun 600 euros, je crois. On a prêté chacun, vous saviez ça ou pas ? 600 euros aux Grecs. Enfin, l'économie grecque. Qui va payer ? Mais c'est nous. Les Grecs, eux, ils vont la voir gratuitement, mais nous, on va payer. Pour le salut de l'âme, c'est quelque part pareil. Nos péchés, ils doivent être payés quelque part. Ce sont des dettes envers Dieu que nous avons. Et comme nous ne pouvons pas payer, sinon nous serions tous perdus en enfer, c'est Jésus-Christ qui a payé notre dette. Et comme ça, notre ardoise peut être effacée gratuitement si on croit en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Et pour ça, on peut remercier Dieu pour l'éternité, franchement. Que Dieu nous ait donné la vie éternelle, qu'il nous ait donné un accès au ciel. On va aller au ciel, on va ressusciter dans un nouveau corps et on va aller dans la présence du Seigneur. Lisez Apocalypse 22, on va être devant le trône de l'agneau, on va être dans la Jérusalem céleste, on va être avec tous les saints. Pas ceux qui ont une vie soi-disant sainte, mais tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au Seigneur, de l'Ancien, du Nouveau Testament. On va être là, se réjouir à voir le Seigneur face à face. On aura une vie immortelle, glorieuse, éternelle, il n'y aura plus de péché. Tout ça nous a été donné juste pour le prix de notre foi. Combien nous devons rendre grâce éternellement et sans arrêt, même si on a des soucis, on ne pourra pas que se réjouir d'être sauvé. On va terminer par quelques instants de prière silencieuse. pour se préparer à la Sainte-Cène, après quoi je laisserai la place au pasteur.